frappe.
Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils. Ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. On compte bien sûr les civils morts, hein. On ne parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. 1,3% des Bravo. Civils gazaouis sont morts.
Alors quel est le gagnant? Arié Danon.
Arié Danon, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Ça s'applaudit.
Arié.
Deuxième.
Allez, on applaudit Arié Danon.
Troisième.
Attention.
Pascou 64.
Qui est Pascou 64?
Allez, on appelle Pascou 64.
Pascou.
Ces gens, bon, j'ai envie de dire, se jugent par eux-mêmes avec ça. Et nous, nous restons quand même là, comme les témoins effrayés et glacés de cette mort dont nous sommes les témoins. Et aussi les témoins, finalement, en tant que citoyens, de notre impuissance à lutter contre ça. Sinon, par la parole, sinon par l'écrit, sinon... Alors, c'est peut-être dérisoire, mais c'est absolument nécessaire.
Et on continuera.
Oui, et d'ailleurs, pendant le gala, ils se sont trompés parce qu'ils ont cité deux noms de gens qui avaient gagné par rapport à leur, je sais pas, leur jeu, etc. En fait, c'est ceux qui ont gagné, c'est Smoothie et Chouchou.
C'est eux, oui, exactement. Voilà. Tout à fait.
Donc, en fait, pour qu'on leur mette les pendules à l'heure, eh bien, il est important de croiser les faits avec l'horreur, où il y a un peu plus d'émotionnel. Donc, on va leur mettre ça à tous ces négationnistes. On va parler de cette maman qui parle de son fils médecin qui est à Gaza et qui collectionne les enfants démembrés.
Il voit tous les jours des enfants de 3 ans, de 4 ans, mourir sous ses yeux. Il n'a pas 30 ans, ce jeune médecin. Ses enfants meurent sous ses yeux, sans bras, sans jambes, brûlés vifs. Par terre parce qu'il n'y a plus de lit, sans pouvoir les passer en soins intensifs parce que c'est saturé, sans pouvoir les passer au bloc opératoire parce qu'il n'y a plus de place. C'est des enfants qui pourraient être sauvés, amputés, mais sauvés dans un autre pays. Et il les voit mourir devant lui tous les jours, tous les jours. C'est comme ça depuis le 7 octobre. Et il travaille tous les jours. Il est médecin bénévole, il n'est pas payé, ils ne sont pas payés là-bas, il travaille tous les jours. Et il a un traitement de faveur par rapport aux autres Gazaouis qui ne mangent plus du tout, ou un petit morceau de pain par jour, ou un peu de lentilles par jour. Lui, il peut manger l'équivalent de 10 cuillères à soupe de riz par jour parce qu'il travaille à l'hôpital. Il en peut plus. Mais il nous donne une belle leçon de vie, vraiment. Moi, j'ai eu que des sourires là-bas avec mes collègues. Ils ont une phrase qu'ils aiment prononcer toujours, c'est « claguèche », ça veut dire « t'inquiète pas ». Mais maintenant, je pense que c'est au monde de leur dire ça, de leur dire qu'on va agir et que nos gouvernants vont faire quelque chose.
Alors cette femme évoque la situation de famine, hein, Claire, des médecins sur place. Figure-toi que ça fait des semaines qui est dénoncé. Évidemment, la situation de famine imposée à l'ensemble de la bande de Gaza, et que aujourd'hui, l'AFP s'est sentie obligée de sortir un communiqué qui s'alarme de la situation d'extrême détresse de ses correspondants pigistes dans l'enclave gazaoui, qui sont eux aussi en train de mourir de faim. Le truc délirant dans ce communiqué de l'AFP, c'est que, alors à la base, c'est la SDJ de l'AFP qui s'en est émue. L'AFP a fait de manière générale un communiqué où elle dit carrément, alors je cite de mémoire parce que je l'ai pas sous les yeux, que durant des décennies de couverture de conflits, l'AFP a vu certains de ses correspondants évidemment tomber sous les bombes. La violence de ce métier évidemment implique que certains et certaines je mets ça entre guillemets, tombent au front, mais de mémoire de l'AFP, jamais ils n'ont vu certains et certaines de leurs correspondants et correspondantes mourir de faim.
Alors, comment est-il possible aussi qu'il puisse y avoir des correspondants, puisque Israël interdit la
présence? Non, mais c'est des pigistes palestiniens sur place qui travaillent pour l'AFP.
Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr.
Voilà.
Et puis
non mais qu'il prenne la plume, voilà, ça reste l'AFP, etc. Mais pour alerter sur la situation de leurs propres correspondants. On parle de correspondants, mais qui sont pas de l'AFP. Ok, on a compris. Alors effectivement, oui, on a entendu sur la presse de Masque, il n'y avait pas de journalistes gazaouis. Bien sûr, ça n'existait pas. Ce ne sont que des terroristes. Voilà, sous la coupe du Hamas. Comme bien sûr, on a entendu qu'il n'y avait pas de civils à Gaza, mais nécessairement des complices du terrorisme. Là, non, l'AFP se sent obligée aujourd'hui. On est quand même le 21 juillet, de publier un communiqué qui dit clairement ces gens sont nos journalistes. Ils sont en train de mourir de faim. C'est un truc de dingue quand même.
Oui, et c'est complètement passé sous les radars.
Ah bah ça date du jour. Je sais pas ce qui va en être fait demain dans la matinale de France Inter ou dans les informés de France Info. Sans doute rien. On préfère au niveau des informés de France Info, j'imagine, continuer j'allais dire décrédibiliser la pétition du plomb là qui je pense d'ici quelques jours finira par atteindre les 2 millions. Ils et elles continueront d'accueillir celles et ceux du bloc bourgeois qui commence à frémir. Ça nous rappelle un peu ce titre des Smiths, Panique, viennent sur les antennes nous expliquer, alors en s'en ferrant Braun Pivet ce matin, qui est quand même allé chez LCI, je crois, ou BFM, j'en sais rien, nous parler de son cancer. Non mais t'es, on en est là, quoi. Braun Pivet pour nous dire que oui, forcément, va y avoir un débat, mais ça veut pas dire que ça engage à quoi que ce soit en réalité, puisque c'est pas vraiment l'enjeu de la de ce système de pétition. L'autre vient nous faire pleurer avec son cancer, mais va te faire foutre, Braun Pivet. Et du coup, voilà, donc ça va plutôt être ça, j'imagine. Je doute que normalement, si on était un peu dans un monde équilibré, toutes les SDJ de tous les médias de masse de France devraient reprendre ce communiqué d'abord de la SDJ de l'AFP, mais aussi de l'AFP. C'est quand même eux qui leur fournissent la majorité de leur information. Alors sauf Europe 1 qui maintenant n'utilise plus du tout l'AFP. C'était une info qu'on a eue la semaine dernière par je ne sais plus quel média indépendant. Mais voilà, en fait, on en est là. On en est au moment où même au moment.
Oui.
Pas celui de
ça fait longtemps
de notre camarade Salamé qui rejoindra le 20h de France 2 l'année prochaine. On en est au moment où l'AFP se sent autorisé à dire oui, non, c'est pas des journalistes de l'AFP, ce sont nos correspondants gazaouis avec lesquels on travaille, c'est nos pigistes, ils sont en train de crever de faim. Oui. Non mais c'est un truc de malade, quoi.
En fait, tout est dingue, en fait, dans la logique actuelle. Les 4000 salopards, les pourritures de crevures, de raclures, et de tous les hurs qui ont fait leur service militaire ou qui sont partis violés et torturés et pillés à Gaza.
Et assassinés.
En totale liberté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pression, d'obligation. Ils sont franco-israéliens, ils n'avaient aucune obligation d'aller faire leur service militaire ou d'aller faire joujou là-bas. Ils y sont allés pour tuer, ils y sont allés pour torturer, ils y sont allés pour violer. L'État français, bien sûr, aussi bien que pour l'avion Netanyahou qui a 3 reprises est passé au-dessus de la France, avec un ministère des Affaires étrangères. Là aussi, ça relève du théâtre, qui invente une jurisprudence délirante du Quai d'Orsay qui n'existe pas, pour dire que un chef d'État qui n'aurait pas signé le traité de Rome et toutes les conventions de Genève et le droit international ne serait pas un féodé, en fait on demanderait à Hitler. Hitler n'a pas signé effectivement la charte des droits de l'homme, alors du coup on ne va pas arrêter Hitler. Donc c'est tellement délirant, et les mecs te parlent sérieusement à la télé en te regardant droit dans les yeux en te disant mais non, bien sûr, nous sommes dans le bon droit, nous ne pouvions pas arrêter Netanyahou, c'est normal, comme vous savez, et on le sait aussi, on l'a passé la semaine dernière, qu'il y a eu un amendement qui est passé aussi pour rendre impossible le fait de pouvoir appliquer le droit international contre Netanyahou, et sans doute combien d'autres mesures qui existent à droite à gauche. Donc le droit utilisé par le bloc bourgeois, le droit utilisé par les fachos, etc., on n'en finit pas d'être écœuré, de vomir, et heureusement, ce qui nous sauve, c'est Simon Moutkin.
Alors oui, alors attends.
Simon Moutkin nous sauve parce que il nous dit qu'on peut soutenir un génocide si on écrit des chansons d'amour.
Oui, petit conseil, vous pouvez soutenir un génocide si vous écrivez des chansons d'amour. Vous le savez, ce week-end, c'était les Francofolies de Spa, et puis il y a eu une certaine polémique, puisque le chanteur franco-israélien Amir se produisait, et des militants ont appelé à déprogrammer ce chanteur. Pourquoi ? Parce que ce chanteur a notamment chanté dans une colonie en 2024, colonies qui, je le rappelle, sont illégales au regard du droit international, mais a aussi soutenu publiquement l'armée israélienne, et nie totalement le caractère génocidaire de ce qui se passe à Gaza depuis des mois. Le chanteur franco-israélien a décidé de faire son service militaire en Israël, ce qui n'était pas une obligation puisqu'il est franco-israélien. Et donc beaucoup d'organisations ont appelé le festival à déprogrammer Amir, mais le festival a répondu que il fallait pas faire de la politique avec la musique, et que le chanteur produisait des musiques avec des valeurs universelles dont l'amour. Donc j'attends la reprise de Lara Fabian de Poutine, Je t'aime, ou un petit duo entre Trump et Poutine par exemple, ou Trump et Netanyahou sur My Earth Will Go On de Céline Dion. Comme ça, ils seront absous de leurs crimes, puisqu'apparemment, selon les francopholies, si vous faites des chansons d'amour, tout va bien. Bref, il y a quand même des chanteurs qui sont retirés. Je vais les mettre en lien. Je vais les taguer parce que je crois qu'il faut applaudir et remercier les chanteurs qui ont du courage dans une industrie musicale qui est assez cadenassée sur le sujet. Donc, merci à Yoa Music, merci à Libra Romeo et à Raquel pour leur courage. Vous êtes un exemple.
Et du coup, quand même, dans le délire absolu autour de ce personnage, qui était contesté pour notamment, alors effectivement, le fait qu'il avait fait son service alors qu'il n'y était pas du tout obligé auprès de l'armée israélienne, mais qui a en plus participé à des soirées et des événements de soutien à l'armée israélienne, on a le point. Dans le sillage de ces annonces de boycott par certains des artistes programmés en même temps que lui à ce festival, je te cite le titre de cet édito, tu vas, j'imagine, bondir. De Dreyfus à Amir, l'antisémitisme change de visage, pas de fond. Oui, non mais tu vois à quel point on en est de novlangue, de reconstruction de l'histoire, de manipulation du réel, quoi. C'est juste un truc de dingue.
Mais en fait, ce truc-là va produire l'antisémitisme.
Ils sont
en train de rendre fous à un point tel qu'on va juste vouloir effectivement les détester réellement à travers leur négation systématique de ce pays monstrueux qu'est Israël, de par rapport à ce qu'il fait depuis 47-48. Donc ça c'est évident. L'absence de regard et de modération, c'est-à-dire de jugement démocratique nuancé, en disant bon là on peut accepter que un juif migrant paumé sur terre aille voir son pote arabe sémite en disant est-ce que tu veux bien faire jouer l'hospitalité, puisque les peuples sémites, en tout cas moi je l'ai expérimenté avec mon gosse, il y a de l'hospitalité dans les pays arabes, et c'est écrit, c'est documenté, etc. Et on n'a pas ça, jamais j'ai vu en France un Japonais arriver en France avec son gosse ou un birman, et puis voir un Français s'approcher de lui en lui disant viens manger à la maison spontanément. Alors, ça arrive fréquemment. Alors plus particulièrement quand on a des enfants, mais dans les pays asiatiques aussi, ça arrive très très facilement dans les pays asiatiques, ça arrive très facilement dans les pays africains et ça arrive très facilement dans les pays du Maghreb, et ça arrive pas du tout dans les pays occidentaux. C'est pas pour être bêtement anti-blanc ou anti-occidental, mais on a perdu cette hospitalité, ça c'est sûr, à part quelques-uns. Mais dans l'ensemble, les quelques-uns, c'est ceux qui hébergent les migrants qui sont sans papier, par exemple,
et qu'on a criminalisé. Il suffit de regarder comment on traite nos vieux pour comprendre tout ça. Et du coup, je t'ai pas donné le sous-titre de ce papier de Peggy Sartre. On n'hésite pas à faire du name shaming ici. Alors, elle est connue, hein, Peggy Sartre, pour être un relais bienveillant de l'extrême droite. Et donc, le sous-titre, c'est non. L'attaque du 7 octobre 2023 en Israël n'a pas créé un nouvel antisémitisme. Il a réveillé un vieux démon parfaitement de gauche. Donc du coup, en plus, elle est en train de nous expliquer que Dreyfus, c'est une affaire d'antisémitisme de gauche. Non mais c'est un truc de malade, quoi.
Ah oui, là, historiquement, effectivement...
Non mais c'est un truc de malade, quand même.
Ouais.
Le point.
Mais... L'alliance entre les fascistes les fascistes occidentaux et les fascistes israéliens est une nouvelle donnée historique qui permet d'expliquer ce type de reconstruction.
Oui.
Pour aller vers la gauche, pour aller vers l'extrême gauche.
Mais d'ailleurs, Julien Odoul publié un tweet aujourd'hui, parce que du coup tout s'orchestre bien entre ces gens. Le Parti communiste, alors je sais pas quel média y citer, sans doute Frontières ou un autre, le Parti communiste, quand le Parti communiste négociait avec les nazis. Julien Odoul, il vient quand même d'un parti dont les fondateurs sont des nazis, en fait. Donc c'est un truc de malade, quoi.
Ouais. Alors ceci étant dit, c'est vrai que les communistes qui étaient à l'époque staliniens, fachos, totalitaires, effectivement, on négocié...
Non mais de là à en faire un sujet de gauche, et Dreyfus n'a jamais été une problématique d'antisémitisme de gauche. C'est juste un truc de malade.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même ne pas oublier que Parti communiste français a donné le feu vert avec Marchais en 79 pour que l'URSS envahisse l'Afghanistan, que le Parti communiste français a fermé sa gueule en 56 en Hongrie, a fermé sa gueule en 68 en Tchécoslovaquie. Oui, le Parti communiste français a été un salopard.
Oui, aujourd'hui il est plus docile puisqu'il joue à Interville. Hein.
Oui, mais moi j'ai toujours adoré le communisme municipal parce qu'ils ont une très très haute image du service public, notamment les aides alimentaires à l'école pour qu'il y ait des cantines scolaires pas chères pour les gosses prolos, qu'il y ait des dispensaires de santé, qu'il y ait des colonies de vacances. Franchement, le communisme au niveau municipal, c'est, on pourrait dire, l'État-providence dans son incarnation la plus réalisée, quoi. C'est vraiment la perfection du service public républicain. C'est les communistes qui l'ont mis en place. C'est certainement pas la droite. Et non. C'est certainement pas les gens qui s'appelaient républicains à l'époque. Mais oui, ce que tu dis sur le point, ça ne m'étonne pas du tout. On est dans des reconstructions, comme Eva Illouz dans mon laboratoire, le laboratoire de Bourdieu, qui a perdu son âme et qui a comme ça des juifs sionistes débiles comme Eva Illouz, comme Denis Péchanski, comme d'autres qui défendent Israël et qui ont dénoncé le fait que Eva Illouz n'est pas le prix Israël, à mourir de rire. Enfin, c'est la honte absolue, quoi. La honte absolue, ce laboratoire. Et j'en parlais aux petits intellectuels de gauche qu'on voit à droite à gauche dans les médias. Ils sont sidérés. Ils sont tous sidérés. Ils disent je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser dire ces gens-là, comment on peut les laisser faire. La seule explication, c'est la peur. La lâcheté, la peur devant ces gens-là.
Ouais, voilà. Mais là, il y a une adhésion quasi aliénée à un récit qui c'est du domaine de la psychiatrie là. J'ai l'impression pour certains et certaines.
Je pense qu'il...
Alors je sais pas quel est le processus, je sais pas quel est, mais c'est assez incroyable quand même.
Oui, t'as raison. Je pense qu'on est au carrefour entre la psychiatrie, la socio et tout ce que tu veux.
Et là, pour le coup, je sais pas l'expliquer, mais là, de l'extérieur, j'observe. Je trouve ça juste hallucinant.
Ce qui est honnête sur Cause Commune, c'est de dire que il nous faut plus de billes, plus de documentation, plus d'analyse face à ce réel qu'on essaye d'approcher. On a du mal à comprendre comment ça. C'est, moi, c'est ce silence-là qui me sidère.
Mais
c'est
oui.
Cette complicité. C'est les arguments de rationalisation, de dénégation, de manipulation, de fake news, de tout ce que l'on veut devant le silence des autres qui ont autorité. Pourquoi des gens qui ont autorité sur la Shoah comme Denis Péchanski n'ouvrent pas leur grande gueule pour dénoncer Israël, pour dénoncer le CRIF, pour dénoncer toutes ces raclures de lobby à l'heure actuelle? C'est ça qui me choque moi profondément chez les juifs en France, c'est leur silence. Et ils devraient te dire, nous on est pour d'autres voies que ce que l'on a là sous les yeux. Comme on a passé à l'instant ce juif politicien irlandais qui a eu le courage devant cette ambassadrice d'Israël de lui raconter des choses simples, c'est que la première intifada, 1999, il n'y avait pas le Hamas.
Il n'y avait pas le Hamas,
Mais oui, tout simplement. Voilà. Et il s'avère que tout ça, ça arrive chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en la personne d'Ali Diawara, c'est difficile à prononcer, une chose qui est aussi hallucinante, un député de la République française qui se retrouve devant une scène de violence ordinaire de la police, parce que finalement c'est le rôle aujourd'hui qu'on attribue à la police et qui ont donc des pouvoirs discrétionnaires et des capacités d'initiative pour faire chier le peuple, et notamment les classes populaires racialisées qui en prennent plein la gueule, et donc même un député n'est plus rien devant un petit flic de merde, et qui un petit flic de merde qui peut menacer un député français d'être tasé.
Nous avons observé, en tout cas vu au loin, des policiers arriver et projeter violemment deux jeunes pour un contrôle de police. Puis on observait de loin que ces jeunes recevaient des petits coups de pied, qu'ils étaient un peu violentés sur un grillage, etc. Donc j'ai décidé de sortir pour observer de plus près la situation. J'ai décliné mon identité à la policière qui était en train de fouiller le portable et l'ordinateur de ces jeunes, tout en sachant qu'ils étaient venus soi-disant pour un contrôle de stupéfiants.
Vous me menacez de me taser? Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Mais c'est bon, vous prenez pour
qui? Vous me menacez de me taser?
La policière m'a dit, vous prenez pour qui? Donc j'ai décidé de sortir ma carte de député pour bien décliner en fait mon identité. Et vous avez un des policiers qui sort son taser. Il me rétorque que si je te tase, tu vas faire quoi? Donc je lui répète à plusieurs reprises, vous menacez de me taser, vous menacez de taser un député. Je considère que, au-delà du fait de contrôler les personnes, il faut avoir un motif légitime et justifiable de les contrôler. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Vous avez deux jeunes qui descendent de chez eux, qui descendent littéralement de chez eux et qui se font contrôler par la police pour le simple fait qu'ils soient noirs ou arabes. On touche les testicules des jeunes, on leur fait ce qu'ils appellent une carte bleue, c'est-à-dire qu'on passe les mains entre leurs fesses. On m'a opposé ce même délit de faciès en tant que député. Donc c'est dire la réalité quotidienne que vivent ces jeunes.
Alors ça, c'est ça date de quelques semaines maintenant, mais elle est tellement révélatrice de ce contexte.
Et le petit jeune là, c'est tout récent.
Oui.
Le petit jeune Ali là, qui s'est fait tabasser par la police.
Absolument. Du coup, il y a une plainte en cours.
Bah, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la voiture, ils l'ont tabassé dans la voiture et ensuite ils l'ont jeté au Fort de Saint. Et ils sont repartis. Ce que Ali dénonce de lui-même, c'est une violence policière qui a été faite de manière gratuite.
Ali, 17 ans, affirme avoir été passé à tabac par 4 policiers le soir du 14 juillet 2025 alors qu'il marchait dans la rue près de chez lui à Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise. C'est sa sœur qui a raconté à Agi Plus les événements.
Ali était en train d'utiliser son téléphone comme un adolescent lambda. Il aperçoit la police au même moment, qui ralentissent et qui font une marche arrière pour arriver au niveau d'Ali en disant les mots vraiment exacts, lui on va l'aider. Il entend ces mots, c'est un jeune, il prend peur, il commence à courir. Ils ont décidé de sortir de la voiture en trombe, ils l'ont couru après, ils l'ont attrapé. Ils ont dit tu nous fais courir. Ils l'ont ramené jusqu'à dans leur véhicule. Et là, le massacre a commencé, parce que c'est clairement le mot. Il a été frappé par deux agents de police qui étaient assis à l'arrière de la voiture, puisqu'il était au milieu, donc à gauche et à droite. Et le conducteur, lui aussi, malgré qu'il était en train de conduire, a donné tous les coups possibles qu'il pouvait. Ils ont décidé d'amener Ali dans une forêt qui s'appelle le Fort de Saint, et ils l'ont descendu à cet endroit-là. Et il y a un policier qui lui a dit, si on te demande ce qui t'est arrivé, tu dirais que t'es tombé. Je suis tout de suite venue sur Garges et c'est quasiment au pied de l'immeuble de mes parents que j'ai découvert mon petit frère dans un état... j'ai presque pas de mots, mais dans un état tellement grave, terrifiant, ensanglanté, le visage complètement tuméfié.
Ali est pris en charge par les pompiers du Val d'Oise et emmené à l'hôpital de Gonesse. Le lendemain, le médecin de famille lui prescrit 10 jours d'ITT.
Il a 6 points de suture au niveau de l'arcade sourcilière. Il avait la bouche dans un état, il avait quadruplé de volume. Mais vraiment, où les médecins sont plus inquiets, c'est au niveau de son œil. Les policiers se sont rendus à l'hôpital le lendemain de l'agression pour essayer de soutirer, je dis bien soutirer, des informations auprès de mon petit frère, en leur expliquant que c'était auprès d'eux qu'il fallait venir porter plainte. Donc nous avons pris l'initiative, en famille évidemment, de se rendre à la gendarmerie de Daumont, dans le Val d'Oise, afin de déposer une plainte qui a été faite.
La famille d'Ali ne comprend pas ce qui a mené à un tel déchaînement de violence sur le garçon.
Ils n'avaient aucune charge contre Ali. Si ils avaient des choses à reprocher à Ali, on ne l'aurait pas laissé sur le bas-côté dans une forêt et partir comme si de rien n'était. Sachant qu'Ali, c'est un enfant qui est très introverti de façon naturelle, très calme, qui parle très peu. Ça a intensifié le comportement qu'il a. Donc il parle très très peu. On est obligé de le bousculer un petit peu pour qu'il puisse nous parler à nous-mêmes qui sommes sa famille. Mais Ali est très choqué.
Bon bah police milice.
Oui. Là, c'est le quotidien. Alors, on voit qu'effectivement, les médias dominants qui sont dans le culturalisme du fait et de l'effet, donc de la chose qui arrive en dernier, ne remontent pas, bien sûr, au bidonville, ils ne remontent pas à la guerre d'Algérie, ils ne remontent pas à l'impérialisme en Afrique de l'Ouest, ils ne remontent pas au travail forcé et mal payé, aux accidents du travail, etc.
Rester sur on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est la parole de la mère, hein.
Oui, mais tous les feux d'artifice là qui sont faits là contre les flics dans les banlieues, tous ces soulèvements ordinaires, on pourrait dire pré-émeutiers, qui
mais d'ailleurs
pré-soulèvement.
Tu vas poursuivre ton propos, Patrick, garde-le entre parenthèses. Mais du coup, moi, j'ai été très étonné que cette année, sous l'ère Retailleau, on ne vienne pas nous gaver dès le lendemain avec le nombre des voitures brûlées. Je n'ai pas vu une seule actu concernant les voitures brûlées du 14 juillet.
Bah oui, mais par contre, les mômes qui balancent les fameux produits de feux d'artifice sur les policiers,
Les tirs de mortier. C'est comme
les
ça
tirs
qu'on
de
dit.
Mortier, effectivement. Ouais. Maintenant, on est passé dans voilà ce que la République a fait en maltraitant ces classes populaires depuis tant de décennies. Voilà dans quelle merde en fait on en est aujourd'hui. Tout ça pour ce que des bourgeois puissent se rincer avec leurs dividendes de merde et leurs bateaux de merde à Monaco en maltraitant et en souillant ces gens. On en a parlé longtemps sur Radio Cause Commune, notamment le silence des pères par rapport aux humiliations subies. Beaucoup de jeunes disent « mon père ne parlait pas », c'est un lieu commun. Donc du coup, tous ces traumatismes réguliers, y compris y compris les tortures de Ali qui existaient dans les années 70, on en a déjà parlé.
Bien sûr.
Dans les violons, dans ces fourgons où ils prenaient les jeunes, ils raptaient. La police française l'a fait depuis des dizaines d'années. Elle l'a fait avant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, après la guerre d'Algérie. On a invité Kokoreff à la radio, qui nous a expliqué dans ses différents bouquins, notamment un des derniers qui s'appelle La Rage, que on avait depuis les années 70 tous ces crimes racistes.
La diagonale permanents. De la rage.
La diagonale de la rage. Donc c'est quelque chose, voilà, qui est en train de gangréner une démocratie qui était déjà gangrénée. Et on a cet acharnement aussi. Alors on a l'acharnement dans la voie publique d'un jeune qui passe, ça c'est légion. Quand j'étais au Val-Fouré, tous les petits jeunes que je rencontrais en 1991 me racontaient qu'ils étaient 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la journée contrôlés. J'avais du mal à les croire à l'époque. Et pourtant, c'était le quotidien qu'ils vivaient déjà. Bon, à l'époque, le Val-Fouré était soulevé. Il y avait énormément de luttes pour justement dénoncer, et pas seulement les policiers, mais aussi la façon dont l'école fonctionnait, la façon dont les services jeunesse de Mantes-la-Jolie fonctionnait. Là-dessus, on pourra en rediscuter, mais c'est une caricature absolue, la façon dont les jeunes étaient occupés par les blancs et notamment du Parti socialiste de Mantes-la-Jolie à l'époque. Et là, on a un exemple de jeunes qui sont en formation, et on a sur un lieu de formation, on a un acharnement policier. Donc c'est raconté par Ferris Barkat, qui donne la parole notamment à Othmane Taibi, et qui nous disent ce que sont les quotidiens de ces jeunes qui veulent juste essayer de se former.
J'ai voulu rentrer dans mon lieu de travail, on m'a déchiré ma veste, on m'a contrôlé. Moi je travaille ici tous les jours, ça veut dire je pense que je vais me faire contrôler tous les jours.
Parce que les gens ils disent bravo, bravo, Ferris Barkat. Mais c'est ça la réalité.
Combien s'est fait contrôler aujourd'hui là? Tout le monde s'est fait contrôler.
Donc ils ont tout déréglé en faisant en sorte que les agresseurs on les lâche et les jeunes qui essaient de s'en sortir.
Je suis mon premier jour de travail, je vois une patrouille arriver en mode sur un terrain stup. En mode ils arrivent, bam, ils ouvrent les portes, ils rentrent de force dans l'école.
Toutes les semaines on te dit il est formateur à l'école, toi tu veux le dégoûter en fait, contrôle sur contrôle.
Je leur fais comprendre que je suis formateur dans l'écologie. Deuxième contrôle, c'est la même patrouille. Ils me voient et qui me recontrôlent. Troisième contrôle, c'est la même patrouille encore une fois.
Quelle crédibilité on va avoir quand on va aller mobiliser des jeunes après?
Ben nous, on essaie de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le béton, quoi. Il n'y a pas que le béton, il n'y a pas que les conneries, il n'y a pas que les sous dans la vie.
Même quand tu essaies de faire du bien, on te dit que t'es bon qu'à faire du mal.
Encore, je suis bloqué encore à la cité, je suis encore en train de faire mon business ou quelque chose. Je serais dit, ils font leur boulot, quoi. Là, frérot, je suis en train de parler de la fonte des glaces. Je comprends vraiment pas. Il faut que je fasse quoi? Faut que j'aille devenir ou président de la République pour vous laisser tranquille, pour que je vous vire aussi.
Parce que généralement, ce qui est bien et mal, on le base sur ce qui est légal et illégal. Donc le système judiciaire a un impact sur ce qu'on va définir comme bien ou mal.
Si, dans le légal, on a toujours la police derrière mon dos, pourquoi pas retourner dans l'illégal, quoi.
Et dans cette histoire, ce qui va être le plus compliqué, c'est de rester juste.
Ancien dealer, ancien taulard, j'accepte pas que moi je veux faire changer les choses.
Parce que quand on ne renvoie que de l'injustice, c'est compliqué de rester droit, tu vois.
En fait, le problème, c'est qu'ils savent ce qu'on fait pour les jeunes, ils savent ce qu'on est en train de monter, et ils veulent pas que ça se...
Nous, ça va, on sait faire, on est bien entouré, mais dans un monde de plus en plus injuste, toute forme de justice va être criminalisée.
Ils veulent détruire notre pyramide avant qu'elle soit finie. Enfin, et nous, on va lutter pour qu'on termine notre pyramide.
Et là, ce qui est terrible dans ce témoignage, c'est que ce sont les formateurs.
Les formateurs, ouais. Et oui, les ouais. formateurs qui sont emmerdés, qui donc disent, est-ce qu'on perd pas notre légitimité devant les jeunes, puisque nous-mêmes, si, on est emmerdés. Et donc, ce qui est magnifique, c'est la phrase de la fin, où il dit, on va lutter pour que notre pyramide puisse se faire. Donc là, en fait, je suis profondément anti-durkheimien, c'est-à-dire je ne crois pas à l'intégration sociale, je ne crois pas à la carrière, je ne crois pas à la promotion sociale, je ne crois pas à tout ça, puisque un, elle n'existe pas.
Est-ce que tu crois en la division sexuelle du travail? Non, mais mettons-nous d'accord sur un principe de base, quoi. Non, je déconne.
Bon, ouais, vas-y, mais on a le droit quand même après 2 heures.
Ouais.
mais tout ça pour dire que ces jeunes-là qui y croient et qui font tout pour y croire, eh bien, ils le disent très bien dans leur reportage, on nous détruit notre quotidien, on nous détruit notre routine, on nous détruit la justice, c'est-à-dire le légal, pour qu'on reste dans l'illégal. Voilà. Et ça, je trouve ça très brillant. C'est-à-dire qu'ils attaquent pas seulement, entre guillemets, ce qui pourrait s'appeler les délinquants. J'aime pas ce terme, puisque on a d'autres façons de le nommer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est, ce qu'on appelle c'est l'interdiction d'être dans la norme. Habituellement, on va toujours inventer des prétextes. Tu es un terroriste, tu es un trafiquant de drogue.
Et
tu
ils essaient, ou cela. Ils essaient d'être collabos, ils y arrivent même pas, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Non, mais attends. Là, moi, c'est ce que j'ai entendu, quoi. Ce message un peu éperdu. Putain, mais on est de votre côté. On y croit. On essaie d'y croire, quoi. Et vous nous faites chier. Et du coup, ça pourrit tout, quoi.
Et donc, si tu veux comprendre pourquoi tu n'y arriveras jamais, écoute cette petite bande son entre Koba et Palmade et t'auras tout compris.
Pourquoi Koba Lad va en prison et pas Pierre Palmade? Deux âmes connues, deux accidents, deux morts. Mais pas la même justice. Koba Lad, rappeur, il est dans une voiture, son styliste meurt dans un accident. Koba ne conduisait pas, il ne fuyait pas, et pourtant, 6 ans de prison ferme. Pierre Palmade, humoriste, il prend de la drogue, il conduit, il provoque un accident, une femme enceinte perd son bébé, un père et un enfant sont gravement blessés, et pourtant, il est libre. Deux poids, deux mesures, Palmade, 2 jours après sa sortie, est filmé en boîte de nuit, alcoolisé. Comme si de rien n'était. Pas encore jugé, pas condamné, mais déjà dehors. Alors pourquoi cette différence? Parce que l'un est rappeur et l'autre est humoriste télé? Parce que l'un est noir et l'autre blanc? Ou parce que la justice fonctionne différemment, selon qui on est? La question dérange, mais elle mérite d'être posée. On n'accuse personne, on expose des faits, et on vous laisse réfléchir.
Alors, la vidéo dont il parle de Palmade alcoolisé en boîte de nuit, en plus, c'était à Bordeaux. Voilà, c'est pour la petite histoire.
Oui, bon là, c'est des circonstances atténuantes pour Palmade.
Oui, bah évidemment.
Parce que franchement, résister à Bordeaux, je sais pas qui peut le faire.
Ah mais je suis d'accord, moi j'y suis allé une fois dans ma vie, une semaine, jamais j'y retournerai. non mais vraiment, je supporte pas les Bordelais. Voilà, c'est du séparatisme, probablement.
Non mais moi je parlais de l'impossibilité de ne pas boire.
Ah, à Bordeaux? Ah oui, parce que tu aimes le vin. Moi je suis un prolo, je bois de la bière.
Hein. Eh ben oui.
Ouais,
ben
bah oui. Ouais. Mais voilà, ben écoute Patrick, je pense qu'on peut conclure cette émission sur là-dessus.
Oui, c'était drôle en plus parce qu'on n'a même pas parlé des insecticides en disant qu'on allait avoir plein de bandes son.
Mais c'était le cas. Attends, il y en a. Attends,
on en a plein.
J'en ai 1, 2, 3, 4. Non, ouais. Mais tu veux qu'on clôture là-dessus?
Non, je te crois pas. Tout ça, c'est du vent. En fait, cause commune n'est pas capable d'avoir des bandes son sur l'insecticide.
Ben, on en a 4. Mais oui.
Ça sera pour une prochaine fois.
Oui, ce sera pour une prochaine fois puisqu'on pourra encore, j'imagine, la semaine prochaine commenter cette pétition et du coup peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce qu'implique cette loi, j'allais dire cette loi du trou, cette loi du plomb.
Bah ils voient, ils sont très comparables
sur l'agriculture et la santé de nous en réalité et surtout de la façon dont s'envisage parmi le bloc bourgeois qui domine aujourd'hui la parole, la politique et les façons de bien penser nous envisage nous citoyens, citoyennes dans notre vie, c'est-à-dire pas très bien. 1,5 million a été dépassé sur cette pétition. On vous encourage évidemment à aller la signer. Je vous renvoie également un superbe article de Nicolas Framont sur le média indépendant Frustration. Donc c'est vous cherchez sur internet, c'est facile, c'est frustrationweb. Je ne sais pas quoi. Qui à propos de cette pétition a un angle hyper pertinent, je trouve, puisque on le sait. Ah, attends, on a un appel, donc je sais pas qui. On va le laisser parler, peut-être. Oups. Ouais, qui es-tu? Ouais, bah il a raccroché. Donc il y croyait pas manifestement au fait que chez Cause Commune on réponde au téléphone, mais peu importe. Donc qui a un angle sur cette pétition hyper pertinent, je trouve. On l'a vu, on l'a compris. Le pouvoir aujourd'hui disqualifie absolument toutes les possibilités pour nous citoyens et citoyennes d'exposer et d'entrer dans une logique de rapport de force avec lui. Ça a commencé évidemment avec les manifestations réprimée de manière toujours plus plus violente et qui eh bien peut effectivement avoir raison de toute l'énergie et toute la volonté qu'on pourrait avoir collectivement de d'agir dans la rue. Après on a signé des pétitions, je parlais tout à l'heure de la pétition concernant la dissolution de la BRAVEM, justement en réponse citoyenne à ce qui était vécu dans la rue. Elle a dépassé les 500 000 hein,
Ouais. Vas-y. Mais
je vais pas perdre le fil. Hein. Ah bah attends, j'en ai deux maintenant. Ah, hop. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Ah. Ouais.
Oui. Vous m'entendez ?
Oui, on t'entend. C'est qui ?
Je suis une très très vieille dame. J'ai 93 ans.
Bonjour à toi.
Mais j'aime beaucoup votre émission et je l'écoute quand je peux, voilà.
Bah merci.
Et aujourd'hui, je l'ai écoutée d'un bout à l'autre et je suis affolée, je suis...
Attends, t'es affolée par ce qu'on raconte ?
Non, je suis affolée par ce qui se passe dans le monde. Par tout ce que vous racontez, ça me donne le... Bon, ça m'angoisse, voilà. Mais j'aimerais bien vous aider. Et si financièrement vous avez besoin, je peux vous aider.
Bah écoute, est-ce que tu as internet ?
Non, j'ai pas internet.
Ah. C'est dommage parce qu'on a sur notre site web un lien vers notre système de dons. Effectivement, oui. Cause Commune ne vit d'aucune subvention publique locale. Oui. On est basé dans le 18e et effectivement, on apprécie que nos auditeurs et auditrices qui apprécient notre travail le financent.
Si tu me donnais une adresse, je pourrais envoyer un chèque.
Eh ben tu peux absolument, je peux te la donner. Notre adresse est publique.
Oui, donne-moi ton adresse.
Ouais. Eh ben c'est Radio Cause Commune.
Oui.
22 rue Bernard Dimet.
22 rue Bernard Binet.
Alors épelle les lettres.
D I M E Y.
B-I-N-E-Y.
D-I-M-E. Un D, pas un B, hein. Ouais. Un D, comme Daniel.
Ah, D, d'accord.
Ouais. Dîner. Dîmer, mais. M comme maman. D-I-M-E-Y.
Dîmer, ah oui, j'avais très mal entendu.
Ouais, je suis désolé.
Dîmer, oui.
Ouais. Et c'est 75-018 Paris.
Très bien, je vais faire ça.
Voilà. Mais c'est, depuis quand tu as un prénom ou j'aime bien.
Moi, je m'appelle Françoise, mais je déteste ce présent. Je dis que je m'appelle Francesca.
Francesca, tu nous.
Bonsoir,
écoutes,
Francesca.
Tu écoutes la radio globalement ou juste cette émission ?
Oh, juste cette émission.
D'accord. Et t'es tombé par hasard dessus dans ta radio ?
J'écoute un peu France Culture de temps en temps.
Ah oui, on est à côté.
Oui, mais je ne regarde plus la télévision du tout.
Ouais.
Je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire et je lis beaucoup, voilà.
Bah écoute, ce serait bien que lors d'une prochaine émission, tu appelles un peu plus tôt pour qu'on puisse dialoguer.
Je ferai ça.
C'est la fin et c'est dommage.
Oui,
j'ai pas envie.
C'est le lundi.
Ouais, oui. Le lundi entre 21h et 23h.
Très bien, bah, je note tout ça et je vous rappellerai.
Merci Francesca.
De rien.
Bonne soirée. Salut.
Bonsoir.
Et du coup, on a, je sais pas s'il est là. Ouais, allô ?
De rien. Bonne soirée.
Ouais, il faut qu'il éteigne sa radio, celui qui est juste sur la ligne 1. Allô ?
Allô ?
Ouais. Éteins ta radio, s'il te plaît. Ouais.
Voilà.
Ouais, allô. C'est qui ?
Allô ?
Oui.
C'est Noir.
Ah, salut
oui.
Noir.
Salut Noir.
Tu voulais pas qu'on parte, en fait ?
Parce que je vous écoute tous les lundis. J'essaie d'appeler dernièrement. Bref.
On a triché, on était là le mardi.
Ah, oh, c'est vilain ça.
Ouais.
Sans avertir et tout ça.
Ouais,
ouais, sans avertir.
Ouais, ouais. Écoutez, franchement, je suis époustouflé et berlué par votre comportement, par l'exactitude, bien sûr. La justesse de vos propos, de vos infos exactes, parce que j'en connais aussi un rayon. Mais Je crois que c'est la première fois que j'entends dénoncer ce qui est absolument dénonçable, parce que, un peu comme vient de dire la précédente
Francesca.
Francesca, voilà. Mais bon, moi je suis pas surpris, hein. Ce qui me surprend, c'est la liberté, le ton et absolument le courage. Ça, je tiens à le souligner, le courage que vous avez de dénoncer le dénonçable et la vraie vérité absolue, l'authenticité, vraiment, tout ça. Et ça fait du bien. Il y a peu de médias, je les parcours tous, je laisse tomber, ça fait un certain temps, un certain nombre d'années que je n'écoute plus la télé, je ne regarde plus, et ni alors les grandes radios, aussi bien publiques que privées, c'est très peu que je l'écoute à des moments choisis comme ça, mais je ne sais pas si je veux dire c'est un plaisir de vous entendre, mais c'est une nécessité, une nourriture intellectuelle d'un très grand bonheur, parce que l'histoire, la sociologie, tout ça, les anecdotes que vous et l'analyse logique, le lien que vous faites avec l'histoire, les histoires et tout ça. C'est quelque part réconfortant. Je ne veux pas abuser des grands mots, mais pour l'humanité, mais des êtres humains comme Francesca vient de vous découvrir. Et moi, malheureusement, j'ai un certain âge et puis je ne suis pas autonome. Sans ça, je serais venu vous rejoindre lors de vos rendez-vous du vendredi, peut-être, et vous aider comme je le peux. Mais voilà, en tout cas, c'est en vous écoutant, ça me réconforte, ça me fait comment reprendre un certain espoir, peut-être, pour l'humanité. C'est ce que vous avez dit sur... ça me fait repenser... Vous avez parlé des années 70 concernant pas mal de choses, mais étant donné votre discours, votre ouverture, je peux vous dire que par expérience, depuis les années 70, je ne sais pas si en France, radio-télévision, radio que j'écoute beaucoup plus, on a cessé une seule année sur telle et telle radio publique, voire privée, les grandes radios, en tout cas les grandes publiques, comme cette année, là, je ne sais pas encore fini, de parler depuis les années 70 jusqu'à cette année, et plus forte raison, c'est après le 7 octobre, ces affaires-là, de parler de l'Holocauste, de toutes ces affaires-là, c'est pas sans lien avec ce que vous dénoncez et ce qui se passe en Palestine. Et voyez, il y aurait des choses à dire.
T'as pas tort, ouais. Profond. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, tu disais que tu ne pouvais pas nous rejoindre à ces rendez-vous mensuels ouverts à toutes et toutes les premiers vendredis du mois dans nos locaux, et c'est valable pour Francesca si elle habite Paris et pas très loin, mais en fait par ces simples mots, hein, alors ça paraît être un peu de la brosse à reluire, mais franchement ça nous donne de la force. Enfin, je sais pas pour toi Patrick, mais moi je trouve ça déjà chouette, et déjà je trouve remarquable cette contribution que tu te sens autorisé à faire, Noir, et du coup je t'en remercie très chaleureusement au nom de évidemment de Patrick et moi qui écoutons
qui
faisons cette émission et toute l'équipe.
Je ne pense pas moi. autant que vous, peut-être plus pour diverses raisons, tout ça. Mais je vous dis franchement, pour des tas de raisons, mais je n'ose même pas être aussi, sauf avec des proches, et encore. Non, je vous dis franchement. Ouais. Parce que le sionisme, l'antisémitisme sloganesque qui couvre en tout cas la France, les médias et tout ça, a des effets sidérants,
oui,
statufiants. Il y a une certaine crainte de dire ça va jusque là. D'autant, c'est pour ça que je dis, découvrant ça sur les antennes et tout ça, je dis que c'est du courage. Je veux pas parler.
Non, mais c'est notre job, en fait. Ouais, mais.
Mais c'est revivifiant, revigorisant. Mmh. Et bon, j'écoute de temps en temps, j'arrive pas à trouver les bonnes. Je suis en cours sur certaines radios proches ou la même fréquence. Mmh. Mais là, je ne manque pas, depuis que je vous ai découvert, je ne manque pas de respirer cet air frais, oxygéné. Mais bon. Une fois de plus, j'essaye de ne pas envoyer de trop grands mots.
C'est d'autant plus touchant que t'as l'air de t'excuser, mais mais on est ravis, Noir, hein, c'est super. Et du coup, un deuxième point que je voulais aborder par rapport au fait que tu donnes déjà beaucoup en juste faisant cet appel et en nous donnant cette force. Encore une fois, à nous, Patrick et moi, mais évidemment à la radio qui produit, je l'espère, puisque j'en suis un peu la direction d'antenne, cette respiration que tu invoques. En fait, tu nous as dit autre chose. Tu as dit, je n'arrive pas à retrouver sur les antennes publiques, les antennes privées, cette oxygénation. En réalité, on ne fait rendre hommage celles et ceux dont on vient. C'est toute l'histoire des radios libres, dont j'espère qu'on est aujourd'hui, bien que nouveau sur la bande FM, on est là finalement que depuis 2018. Les représentants, ouais, mais tu sais, c'est très récent pour une radio, oui. 2018. Enfin voilà, quelques années, on a à peine 7 ans, enfin c'est très jeune. Les radios dont on est issu, elles ont 40 ans d'existence,
oui,
donc. Voilà. Donc, attends, ne quitte pas, je voudrais juste voir si la personne qui a appelé sur l'autre numéro est toujours là. Bonjour à toi.
Oui, bonsoir.
Oui, qui es-tu ?
Je m'appelle Sophia.
Bonjour Sophia.
J'ai 30 ans. Et j'écoute votre radio depuis un petit peu plus d'un an, je dirais.
Oui.
De temps en temps, pas tous les soirs, mais souvent, quand j'arrive à vous capter, parce que j'ai.
C'est un peu compliqué, oui.
Vieil appareil, tout moche, tout pourri. Et moi aussi, je tenais vraiment à vous apporter vraiment toute ma reconnaissance, parce que vraiment, je suis contente à chaque fois que je vous écoute, parce que je me dis, je suis pas toute seule à penser ça, en fait. On est vraiment dans ce monde. Voilà. On est entouré de gens qui mentent, des hypocrites, des mises en scène. Et puis alors ça se voit de plus en plus et personne ne réagit. Mais si en fait les gens réagissent, quand je vous entends, je me dis, mais si, c'est une réalité en fait. On n'est pas je suis pas dans un monde parallèle. Donc ça me rassure, ça me réconforte que des gens puissent s'exprimer comme vous le faites. Et voilà, donc je tenais à vous remercier pour ce que vous faites, parce que vraiment c'est extraordinaire aujourd'hui d'entendre des gens prendre une position comme vous le faites. Moi, j'ai honte parce que j'aimerais tellement pouvoir le faire, mais je ne sais pas, en fait.
Tu peux le faire en appelant pendant l'émission, Sophia, et en dialoguant avec nous.
J'ai osé ce soir.
Mais c'est magnifique.
J'ai entendu cette dame d'un âge certain. Oui. Je ne sais pas quel âge elle avait.
Francesca, oui.
Francesca, voilà. Et je me dis, mais en fait, il faut qu'on soit nombreux à appeler. Il faut vraiment qu'on parle de vous, parce que je ne sais pas si tout le monde vous connaît, j'en sais rien.
Bah non.
Je crois qu'il faut qu'on sorte de notre mutisme. On n'ose plus parler, on n'ose plus dire, on n'ose plus. Forcément, il y a des choses à surtout pas dire aujourd'hui. On est en dictature, en fait, c'est une évidence. Mmh. J'ai toujours parlé de la dictature silencieuse dans ce pays, mais aujourd'hui, elle l'est plus, en fait. Elle est plus silencieuse. On est en dictature. C'est une dictature. On peut plus parler, on pense les choses, mais on n'ose même plus en parler autour de soi, juste en petit cercle familial et encore. On essaie de sonder pour savoir ce que pensent les gens avant de s'exprimer. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible.
Bah, merci.
Donc voilà,
merci.
Moi, je suis comme l'auditeur précédent. Je ne regarde plus la télé parce que moi, les BFM, CNews, je peux plus. Je peux plus. Les TFA,
non, faut laisser ça à Patrick parce que du coup, ça permet.
Oui, mais j'ai un ulcère.
Oui.
Voilà, la radio, c'est pareil. Je suis tombée sur votre radio parce que voilà, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes discours. Parce qu'en fait, ils sont partout. Hein, ils nous ont complètement encerclés. C'est soit les chansons, soit Cause Commune. Histoire de... Mais vous savez que je m'endors parfois avec Cause Commune. Hein, alors, je me réveille, j'entends des sons qui sont un peu bizarres parfois. Je me dis, bon, c'est pas mon truc. J'essaie de me libérer un peu de tout ce qui nous entoure. Tout ce négatif autour de nous. Donc voilà. En fait, je sais que vous êtes en fin d'émission. Donc
oui, mais c'est pas. Franchement, c'est pas grave. C'est
rappelle,
pas
Sophia,
grave.
Rappelle et justement ce que tu dis, ce que tu ce que tu entends autour de toi, partage-le avec nous.
Et franchement, non, c'est. Moi, je suis dégoûtée, mais dégoûtée à un point. Je suis née en France. De parents maghrébins qui ont donné leur vie pour la France qu'on a traité comme des chiens aujourd'hui c'est nous. C'est nous, moi je bosse depuis toujours et je me dis mais c'est dégueulasse quoi, tout ce que j'entends je me dis mais c'est horrible. Moi j'ai participé à la France, j'ai participé, j'ai 60 ans, ça fait 60 ans que je vis, que je bosse, que j'aime la France. Et la reconnaissance, j'allume ma télé et on nous insulte du matin au soir. Je suis dégoûtée, dégoûtée. C'est vraiment... Et ce qui me dégoûte en plus, c'est de me dire qu'en fait, les gens ne bronchent pas. Je ne sais pas si je dois leur en vouloir ou pas. Je ne sais pas, en fait.
Je suis dans la même expectative. Ouais.
Je ne sais pas, je ne comprends pas. En fait, c'est tellement gros que... Je ne sais pas. Et après, ils se posent des questions pour savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais c'est normal, en fait, on y retourne, hein.
C'est un mot très juste, gros, c'est gros. Je peux... c'est tellement, pardon, juste quelques secondes. Ce que je voulais dire, j'ai failli peut-être l'oublier, c'est la méthode sloganesque d'Israël, c'est des cellules de pensée là-bas qui viennent ici avec des cellules réceptrices. Réceptives d'ici qui font c'est le slogan qu'ont usé les nazis avec le représentant Goebbels à qui on attribue la fameuse phrase plus le mensonge est gros plus il est cru.
Mais tu sais, ce que dit Sophia est d'une puissance importante. Là, on voyait très récemment une polémique lancée sur certains réseaux sociaux. Alors, polémique lancée à juste titre, hein, sur la photographie d'un restaurant qui se sent aujourd'hui autorisé d'afficher pas de halal ici. Voilà. Et en fait, on revient là évidemment aux imageries, aux imageries antisémites des années 30, où on affichait exactement la même chose concernant certaines communautés. La force du témoignage de Sophia, il est dans cet impact dans la chair de ce qu'elle représente. De cette immigration réussie, d'une diaspora qui aime la France et qui aujourd'hui se retrouve dans un contexte qui s'autorise la rejeter au même titre qu'on l'a fait dans les années 30 pour les Juifs et alors les Italiens.
Moi, ça fait 60 ans que je suis ici. Ouais. Je suis plus française que ce que j'entends, moi, ceux que j'entends. Mmh. C'est-à-dire des gamins, parce qu'ils ont la moitié de mon âge, qui sont 9 fois sur 10 pas nés ici, ou qui sont des gens qui n'ont pas qui ne sont pas forcément français, et on nous jette ça à la figure. Mmh. Ça veut dire que je serai jamais française.
Ben oui.
Je ne serai jamais française de nationalité. J'ai un papier, mais qu'on me retirera peut-être à un moment donné, je le verrai peut-être, hein. J'ai 60 ans, mais je pense que je le verrai. Mmh.
Bah, vu comment c'est parti.
Bah, vous l'êtes plus, en fait. Vous n'êtes pas de souche, donc vous l'êtes plus. Bah ouais, ils n'ont plus que ça, remarqué. Hein. Puis tout ça se prend silence, parce que les gens ne diront rien. Là, on est allé tellement loin que je pense qu'ils peuvent... Ils tabassent les gamins, là, j'entendais le témoignage tout à l'heure. Ils tabassent les gamins parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce que sous les yeux de tout le monde, et personne ne dit rien. Les gens ne discutent même pas.
Gratuitement.
Et c'est grave, quoi. C'est grave, je comprends pas. J'arrive pas à suivre. J'ai raté un wagon. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Là, je comprends pas. Je pense que, justement, l'ennemi silencieux, on l'a pas vu arriver. Il a tout investi, les médias en particulier, évidemment, la politique, les médias, et aujourd'hui, et ben voilà, il s'exprime. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Israël et en Palestine, c'est ce qui va se passer ici. Hein. Parce que c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes.
Patrick ?
Sophia, c'est... Non, mais je note, Sophia, je note. Ah oui, j'adore. J'ai dictature silencieuse. T'entends mon bic qui fait clic, clic, clic. Dictature silencieuse, l'ennemi silencieux. C'est vrai, on parle beaucoup de silence. On parle beaucoup de
complicité. Mais on parle pas de l'ennemi intérieur. Alors, ce qu'a fait Mathieu Rigouste, très bien.
Alors, ils en parlent de l'ennemi intérieur.
Oui, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon.
Ils se trompent, mais ils le savent pas. Ouais. Ils ne le savent pas, mais l'histoire, elle se répète, et puis viendra un jour, très certainement, où on dira, oh là là, on fera des grands, oh là là, on a vu ça, on a fait ça, mais on était sous l'emprise d'eux, et ça recommencera, parce que c'est la nature humaine, j'ai l'impression. Mmh. L'être humain est comme ça.
Ce qui est important, moi, dans ce que j'entends, Sophia, c'est quand tu dis j'ai raté,
demain,
j'ai loupé un wagon.
Ce sera un autre.
Vas-y, Patrick.
Voilà.
Oui, Sophia, quand tu dis j'ai loupé un wagon, j'ai tout raté, on est nous aussi sur Cause Commune avec le sentiment de ramer pour essayer d'atteindre dans les mots et dans les faits, avec des documentations, avec des illustrations sonores, avec des bandes son, des réseaux sociaux, de gens qui analysent. On a l'impression de ramer pour essayer d'accoster le réel. On est comme avec des rames. Et on essaye d'aller vers ce qui nous semble toujours inaccessible, complètement inouï, irréel, alors que c'est le réel, mais ça nous semble délirant. Mais c'est pour ça qu'on est en permanence en train de dire ça.
C'est allé trop vite, là. C'est allé trop vite. Ou j'ai raté le coche, je ne sais pas. Je crois que la parole s'est libérée tellement vite que je ne comprends plus rien, en fait. Les Juifs avec le Front National, du jamais vu, c'est n'importe quoi, on marche sur la tête, en fait.
Ça a été un truc de fou, quoi.
Mais,
on marche sur la tête.
C'est une feinte de la part du Front National. Hein.
Mais bien sûr, mais c'est une évidence. Ouais. Parce que c'est quoi le cœur du Front National.
Bah c'est simple,
mais
l'extrême.
Ils ont oublié, mais l'être humain, il a un problème quand même.
Bah, ce qui réunit aujourd'hui l'extrême droite israélienne de l'extrême droite française et européenne, c'est la haine de l'arabe.
C'est, oui, il se, oui, mais vous savez, l'arabe, c'est pas le juif.
Non.
Donc je pense qu'il se trompe.
Alors, clairement, nous, ça on le sait.
Nous, on subit et on n'a pas fini, à mon avis. Hein. On n'a pas fini. Mais ça, ce sera qu'un temps. Parce que les nazis, le Front National et tous ceux qui font partie de qui adoptent ces idées, qui ont ces idées dans l'ADN, parce que c'est vraiment pour parler d'ADN chez ces gens-là, c'est une race à part. Eux, ils changeront pas.
Non.
Eux, ils changeront pas. Ça, j'en suis convaincue. Eux, c'est ils sont pourris jusqu'à la moelle, quoi. Et c'est des gens qui sont, ils sont à la limite de je sais pas ce qu'ils ont d'humain en fait. Ils ont une carapace, ils paraissent peut-être des êtres humains, mais je sais pas ce qu'ils sont à l'intérieur. C'est tellement moche que franchement j'ai pas les termes pour les désigner.
Mais c'est 11 millions de votants.
Et voilà, c'est ça. Mais il y en aura sûrement 16 000 la prochaine fois, 16 millions. Ah oui, non, mais c'est presque une mode aujourd'hui. Ils ont la cote, bon ben c'est bien. Les gens n'ont rien compris, en fait, de toute façon...
ils ont tellement la cote que le Front National dans sa communauté...
C'est l'être humain qui comprend pas.
Ils sont tellement la cote...
Il a toujours besoin de taper sur quelqu'un, voilà,
Arabes. Ouais. Et ils ont tellement la cote que le Front National se sent autorisé aujourd'hui dans sa communication, alors qu'ils viennent d'être condamnés, plus d'une dizaine, pour détournement de fonds européens et comme conséquence directe, l'inéligibilité... De Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027, ils se sont autorisés à communiquer sur rendre leur argent aux Français.
Oui, c'est ça.
Les voleurs,
oui, bien sûr,
les voleurs
comme
absolus.
Comme le disait tout à l'heure monsieur, plus c'est gros, plus ça passe.
Non, mais c'est juste un truc.
C'est tous des délinquants en fait.
Bah, ouais.
Ils critiquent les délinquants, mais c'est eux. C'est eux qui sont délinquants. Ce sont des voleurs, des menteurs. Enfin, on l'a toujours su, ça, que les politiques, c'était des menteurs et des voleurs. C'est une race de voleurs, ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils le disent et ça passe. Et plus ils sont menteurs et voleurs, et plus on les met en avant. C'est comme ça. Le monde, on marche sur la tête. Moi, je vous dis, j'ai raté un wagon. Je sais pas, j'ai dû perdre la tête pendant une vingtaine d'années. J'ai l'impression que je suis plus là. Je suis dans quel monde? Je me pose la question, je me dis, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là?
Bah écoute,
la France, la démocratie, les valeurs. Allô, on n'est plus là-dedans, hein? C'est fini, hein? Pour se réveiller, la France, hein? C'est plus une démocratie, c'est une dictature, une véritable dictature. Alors Macron, il
nous en
est
aussi, mais ça, c'est très lucide.
Donc voilà, je suis désolée, hein,
attends, c'est avec plaisir qu'on te laisse, Sophia, t'exprimer librement. Et effectivement, c'est précisément la question qu'on pose tous les lundis, hein, entre 21h et 23h. Comment on en est arrivé là? Bon, on a quelques idées. Comment sortir? Là, c'est plus compliqué puisque.
Comment sortir? Oui, c'est ça en fait. Parce que bon, une fois que le constat est fait et puis on l'a sous les yeux, on fait quoi pour s'en sortir?
Bah ouais, c'est plus complexe parce que ça nécessite de massifier. Et justement, je reviens un petit peu à ce que j'évoquais en clôture de cette émission tout à l'heure concernant. Le papier de frustration média indépendant, frustration web que vous pouvez trouver sur internet exclusivement, malheureusement, alors c'est de l'écrit, hein, c'est pas voilà, et où à partir du moment où tous les moyens citoyens d'expression ont été disqualifiés, alors j'ai évoqué la rue, j'ai évoqué les pétitions, etc., il y avait un truc intéressant avec cette pétition contre la loi Duplomb et la demande. Dans cette pétition, c'est clair, notamment à la fin, sa demande d'abrogation, c'est le fait que, et c'est l'angle de Nicolas Framont, c'est qu'évidemment, ça ne va pas avoir d'impact politique, puisqu'on l'a vu depuis 48 heures, on a tout ce qu'il y a de raclure politique du bloc bourgeois qui vient nous expliquer que c'est bien mignon la pétition, ok, on va peut-être en rediscuter, mais la loi est la loi, et ce sera comme ça. Mais en revanche, le côté massif de l'adhésion, faut quand même rappeler que en l'espace de 4 jours, plus de 1 500 000 signatures ont été réunies. On parle de celles et ceux qui, comme toi, Sophia, j'imagine, ou Francesca, qui me disait ne pas avoir internet, qui seraient signataires, mais qui ne peuvent pas, porter leur voix. Donc ça crée effectivement un microcosme de la contestation. Le fait est que on dépasse les 1 500 000, alors que péniblement ces pétitions arrivent rarement aux 500 000 requis pour ouvrir un débat à l'Assemblée nationale. Et l'angle de Framont, c'est de dire est-ce que dans un contexte où finalement on l'a vu, il y a eu plusieurs chocs depuis 2017, l'élection de Macron, une brutalisation plus évidente à partir de sa réélection, la brutalisation de la démocratie ou de la censément démocratie représentative quand le vote majoritaire a été utilisé comme papier hygiénique pour se torcher le cul proposer et mettre au pouvoir en premier ministre la quatrième roue du carrosse, c'était à l'époque Michel Barnier, et un an plus tard, quelques mois plus tard après la dissolution, nous mettre ce mollusque de Bayrou qui lui-même a été totalement englué sans que jamais ça ait de conséquences politiques dans l'affaire Bétarame, sa protection de pédocriminels catho intégriste dans sa région de Pau, et puis il y a d'autres affaires évidemment autour de d'établissements du même acabit. Voilà, donc une claque supplémentaire et une claque, et là 1 500 000 personnes, j'imagine que on va probablement arriver aux 2 millions et on va se reprendre une claque. Et ce que dit Framont, c'est que ça n'est qu'une étape complémentaire de la constitution d'un rapport de force qui peut-être encourager les ciments syndicaux à être enfin plus offensifs, s'émanciper de leur cadre. On se souvient de l'échec total de la mobilisation pourtant massive contre les retraites qui, sous couvert de la stratégie débile de notamment la CGT en adoptant la stratégie de la grève larvée, évidemment étouffé dans l'œuf cette mobilisation. Bref, Framont dit dans son texte que c'est peut-être un petit palier supplémentaire qui va faire prendre conscience à celles et ceux qui aujourd'hui, comme toi Noir, comme toi Sophia et comme Francesca qui nous écoute aussi, que le rapport de force là est possible. On arrête de se faire massacrer dans la rue. Là, on est dans une séquence politique qui accumule pour les citoyens et citoyennes qu'on représente les baffes, les humiliations. Cette démonstration de force autour de ces signatures peut-être le ciment de quelque chose d'autre. Voilà. C'était ce que je voulais dire en conclusion.
J'ai peu d'espoir. Les élections, ils n'ont pas écouté. Les pétitions, ils n'en ont rien à faire.
Ouais, mais c'est précisément le sujet. Ouais.
Ils n'ont pas le choix. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla, concrètement, il n'y aura rien. Ça fera encore un petit tour de passe-passe et puis ils s'en sortiront comme d'hab. À part une descente dans la rue, comme les gilets jaunes avaient démarré, c'était bien,
ils avaient bien démarré le truc et puis c'est parti en cacahuète parce que voilà, et ben il y aura, enfin il y a pas d'autre, moi je vois pas d'autre issue en fait. Hein. Mmh. C'est triste. Hein. Mais à part une rébellion vraiment, et puis ça risque de faire très très mal. Je vois pas comment on peut s'en sortir, moi. Je vois pas.
Étant donné la force politique du pouvoir exécutif en place, et comme diraient nos jeunes communicants, la radio Olivier et Patrick, l'impérialisme, c'est vrai, c'est pas un vain mot, c'est pas un slogan, est tellement économique, financier, tout ça, est tellement puissant. Voilà, par exemple, vous avez parlé des gilets jaunes à plusieurs reprises. Que sont devenus les fameux cahiers de doléances depuis, et puis que l'exécutif, que le gouvernement français ait pu donner ordre, parce que donner ordre, c'est pas laisser faire les policiers, mais de tirer à balles réelles sur des citoyens qui ne font que demander justice. Je veux dire, on se croit pas être en France.
Bah, on leur a dit que c'était de la faute des Arabes. Et voilà. Ils ont porté le problème. Il faut toujours trouver un coupable. Le coupable, il est tout trouvé. Hein.
Ça a divisé pour régner, etc.
J'ai faim. Bah oui, c'est de la faute de l'étranger. T'as pris ton pain. Ah bah voilà.
Ah bah,
Le Pen.
le problème, la question de l'immigration. Si c'est une question, on en a fait une question et un problème. Elle est toujours depuis les années, peu à peu. Depuis les années 70, mais 80-90 jusqu'à maintenant, c'est tout le temps. Mmh.
Non, mais en fait, ils se fichent de nous. Les problèmes, c'est tout. C'est à nous, ils sont élus pourquoi ? C'est toi qui nous apportes les problèmes depuis toujours, en fait. Les problèmes, on n'apporte rien, nous, on travaille. On leur apporte de l'argent pour qu'ils nous créent des problèmes. C'est ça, en fait, le problème. Oui, c'est que les politiques, ils sont payés avec nos impôts. Nous, on bosse. On est vraiment, alors là, on est pressé comme des citrons, il reste plus que la peau et il continue. Ah, il va falloir mettre la main à la poche, mais c'est du foutage de gueule en fait.
Vous apportez d'autres épisode problèmes. Historique que vous avez.
Non, mais c'est une blague.
Les gens crèvent
de faim. Non, mais moi, j'en peux plus, moi. J'en peux plus.
Sur l'origine de ce monde. Des capitalistes récents aux États-Unis venant d'Afrique du Sud est très intéressant. Et c'est illustratif de tout le comportement qu'il y a en ce moment aux États-Unis avec l'élection. J'aurais jamais pensé, c'est pas, enfin, même en France, alors depuis, en tout cas pour moi, depuis Sarkozy, Hollande et celui-ci, ce président,
Bah oui, mais le problème, c'est que quand t'as une gauche défaillante et les démocrates étaient défaillants, ça marche pas en fait. Et par contre, ce que tu vois, c'est que il y a certaines victoires avec la victoire aux primaires d'une gauche radicale. Zoran, comment il s'appelle, Patrick? Je sais que tu sais. Il va chercher. Ouais.
Non, mais Zoran qui ?
Mais Zoran, le futur maire de New York.
Qui a gagné
la primaire démocrate à partir du moment. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où t'as une vraie alternative de gauche, en fait, elle gagne. Là, les démocrates, je veux dire, en étant partenaires d'Israël et du génocide sur le peuple palestinien, ça pouvait pas réunir une majorité pour élire un président. Biden n'a jamais eu de mots critiques contre Israël. Kamala Harris n'était qu'une Macron de base. En fait, le truc, c'est que si tu veux que dans le cadre électif, les électeurs se mobilisent pour changer la donne, il leur faut de vraies alternatives. Là, le problème, c'est que la gauche ne s'est pas mobilisée autour de la candidature démocrate. Par contre, l'extrême droite, les fronts bas, eux, évidemment, se sont mobilisés autour de la candidature de Donald Trump. Mais voilà, en fait, le truc, il est en réalité assez simple, et on aura exactement la même chose si en 2027. On n'a pas une candidature, une gauche de rupture qui ait suffisamment d'écho dans l'opinion publique pour montrer qu'elle est disponible et là. Regarde, en Espagne ça a marché, par exemple. En Espagne, là, le pouvoir ne fait que, depuis 3 ans, appliquer le programme du NFP tel qu'il a été énoncé lors des précédentes présidentielles puis législatives, et ça marche très bien. L'Espagne s'en sort très bien économiquement, et même ils vont plus loin. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que quand tu prends les gens pour des cons, en réalité, ils vont pas chercher l'ersatz du monde meilleur, en fait. Ils se déplacent pas. Par contre, ceux qui se déplacent, c'est ceux dont on ne veut pas. Voilà, elle est là, l'alternative. Donc on voit comment s'organise, évidemment, la future élection présidentielle, Retailleau notamment déclarait il y a moins de 3 jours que le véritable ennemi républicain c'était la France insoumise, évidemment d'ici 2027 il va se passer des trucs pour qu'il y ait un mollusque du type Glucksmann, un mollusque PS du type Olivier Faure, peut-être une candidature de Villepin certains et certaines à gauche vont croire que c'est la bonne solution, mais le pire, évidemment, c'est que les gens finissent par élire cette espèce d'abruti qu'est le président du Front National aujourd'hui, Jordan Bardella, le président TikTok, quoi.
Qui a aucune expérience.
Non, mais
je rêve, quoi.
Et effectivement, mais bon, quand tu prends les gens pour des cons et que les mouvements politiques n'ont pas suffisamment d'ancrage locaux et de travail de terrain pour emmener les gens vers eux, et que tu ne comptes que sur les médias dominants et les médias privés qui sont nécessairement d'extrême droite pour construire l'opinion publique, t'as des élections de merde, en fait. C'est ça qu'on met le fascisme au pouvoir. C'est tout. Et effectivement, c'est pas nous, cause commune, qui allons changer la donne, mais cause commune plus Sophia plus Francesca plus Noir, voilà, qui et puis plus d'autres. J'espère que vous n'êtes pas que 3 à écouter cette émission et cette radio, mais peut-être.
Peut-être nombreux, que là, si,
mais voilà.
De plus en plus nombreux. Seulement,
de plus en plus nombreux.
Peut-être.
J'en suis sûr. On est de plus en plus nombreux. Sauf que les gens n'osent parler, en fait.
Ouais.
Et moi, je me charge, et encore plus, tout le temps, de diffuser, de faire...
Mais moi aussi.
De vous faire connaître.
Et moi aussi, voilà. Mais on me dit de me taire.
Bon, c'est cool.
Tais-toi.
Et heureusement qu'il y a un chat actif et que des auditeuristes nous rappellent à nos devoirs. Donc c'est Zoran Mandzani, voilà. Mandani, le vainqueur de la primaire démocrate pour la mairie de New York. Et le mec, je veux dire, il va pas rigoler à New York. De là à ce que Trump ait décidé que s'il était élu ou si ça continuait de... Alors peut-être qu'il va être assassiné en cours de route, j'en sais rien.
Il y a des chances, ouais.
Ouais. Mais a dit qu'il allait couper tous les crédits fédéraux pour l'état de...
Voilà. C'est ça qui est extraordinaire.
Non, mais c'est ça qui est fou, quoi.
Mais il fait ce qu'il veut.
Et j'ai appris.
Il fait ce qu'il veut.
Mais voilà. J'ai appris, ceci dit, aujourd'hui, que dans une autre grande ville, alors je ne sais plus dans quel état, un autre candidat démocrate encore plus radical en termes de profil que Zoran Mandani a lui aussi gagné la primaire. Donc tu vois, en fait, la contamination, la capillarité de la victoire, elle est possible. Et je vous propose de terminer juste là-dessus. On va se quitter avec un titre d'Eiffel qui s'appelle « À tout moment, la rue », qui résume un peu bien tout ça. Ouais, oui, noir.
Permets-moi avant de...
Ouais.
Je suis ravi ce soir de participer, mais d'entendre Sophia. Alors, tout son propos, vraiment, son état d'esprit me ravit. Alors, si je peux me permettre, je serais ravi de continuer à communiquer avec elle si elle le veut bien.
Écoutez, c'est gentil. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'exprimer comparativement à vous. Hein. Je vois que vous avez une façon de vous exprimer qui est beaucoup plus claire et plus.
Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, mais moi, ce que je vous propose tous les deux.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit.
Je comprends et je devine par là. Ce qu'il y a de non exprimé.
Bon, ce que je vous propose
tout, voilà.
ce que je vous propose tous les deux, mais ce que je propose aussi à Sophia, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine entre 21h et 23h de manière un peu moins pressée par le temps. Moi, j'ai un problème, c'est que d'accord. si j'ai pas le métro, je rentre à pied et j'en ai pour 2 heures à pied. Là, ça me saoule. J'ai pas envie.
Merci en tout cas du temps que vous avez pu me consacrer.
Mais c'est avec grand plaisir, Sophia. Donc, Sophia, Francesca. Noir, on reprend la conversation la semaine prochaine. Pourquoi pas, Noir, tu pourras, on pourra voir en antenne comment ça peut se passer si Sophia souhaite échanger avec toi. Mais là, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps. D'accord. Merci à vous.
Très bien. Merci infiniment. En fait, bonne soirée à tous.
Je n'ai pas appelé trop tôt parce que c'est tellement bien. C'est franchement,
non, mais...
c'est véridique, mais ok. Okay.
On peut prévoir de faire une émission plus longue, mais du coup, il faut qu'on le prévoie. Merci, Sophia, d'accord. De ton appel. Il était vraiment fondamental. Merci
à tous.
Merci, Noir. Merci, Sophia. Merci, Francesca. On va se quitter avec Eiffel à tout moment, la rue, parce que il faut se donner quelques espoirs sur les manières possibles renverser le réel qui ne nous convient pas, et ça peut passer aussi par là. Allez lire le papier de Nicolas Framont si vous avez accès à Internet. Patrick, merci pour cette émission. Un petit commentaire pour finir, on n'est plus à 2 minutes près.
Non, mais c'était un débat passionnant qu'on continuera avec grand plaisir avec les nouveaux invités notamment.
Belle soirée à toutes et toutes à l'écoute de Radio Cause Commune, Eiffel à tout moment la rue. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, les problèmes de la radio continuent. Ce n'est pas que cette émission. Je vous laisse les écouter sur 93.1, sur causecommune.fm et sur le DAB également à Paris et en Ile-de-France. On se retrouve la semaine prochaine, 21h-23h. Ciao.
Le tintamarre du pognon, à tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front. La faune et la flore à grands rayons. Il éclate de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie. Quand la nuit remue aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves, et quand le peuple rêve. bien compter, le monde éthique se voit plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment, elle peut aussi dire non, comment oui, aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie, quand la nuit remue, aux astres et aux bas-fond, c'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle, que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non, à tout moment la rue peut aussi dire non, à tout moment la rue peut aussi dire non, à tout moment la rue peut aussi dire non. La rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non.
Cause commune, retour en FM à 21h et retrouvez nos programmes sur causecommune.fm et en DAB+ à Paris. Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.